7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal.
Riposte modérée ou escalade, Israël a lancé des drones sur la région d'Ispahan en Iran cette nuit, ce que rapportent des responsables américains. Élèves coupables de violence, voilà ce qui pourrait apparaître dans le dossier scolaire des adolescents perturbateurs, c'est l'une des mesures envisagées par Gabriel Attal. Et puis une question pour finir, est-ce que Taylor Swift fait grimper le PIB des États-Unis?
Ça c'est une question. Après le journal, l'éditorial d'Arthur Berda, et puis l'invité de la matinale aujourd'hui à 8h15, c'est le président de Michelin, Florent Ménégo. Avec lui, on va parler de salaire décent. Israël a riposté à l'Iran cette nuit.
Il était 4h du matin en France quand la télévision officielle iranienne a annoncé des explosions dans la région d'Ispahan. Israël n'a pas revendiqué d'attaque, mais des responsables américains le disent. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a même prévenu les États-Unis de sa riposte. On peut parler de réponse modérée aux attaques iraniennes. Nina Droff, les dégâts en tout cas ne sont pas nombreux.
Oui, seules 3 explosions auraient été entendues près d'une base militaire de la province d'Ispahan, mais il n'y a pas de dégâts majeurs selon les autorités iraniennes. Aucun missile n'a été signalé pour le moment, seules des attaques de drones qui ont en partie été interceptés par le système de défense anti-aérien de la République islamique. Pour Sébastien Boissa, spécialiste du Moyen-Orient, cette attaque est une mise en garde d'Israël.
C'est une riposte très modérée, très ciblée, un avertissement dont l'objectif n'était de toute évidence de ne pas faire de dégâts particulièrement civils. Le but était clairement pour Israël de montrer qu'il pouvait frapper sur un site aussi sensible que Natanz et les alentours d'Ispahan, là où se passe une grande partie du fameux enrichissement d'uranium iranien.
Reste à savoir maintenant si l'Iran répondra à cette attaque, prenant le risque d'une escalade régionale. En attendant, l'ambassade américaine en Iran a décidé de restreindre les déplacements de son personnel et l'Australie a appelé ses ressortissants à quitter le territoire iranien face à une menace de représailles.
Alors, début d'une riposte majeure ou riposte modérée, Dominique Trinquant, expert militaire, ancien chef de la délégation française auprès des Nations Unies, va nous éclairer.
Israël avait dit qu'il répliquerait, Israël a répliqué. Et donc la question c'est, est-ce que ces drones étaient capables d'infliger des pertes ou est-ce que ces drones sont un premier avertissement? C'est soit une réponse contenue, soit c'est un raid de reconnaissance et de provocation. Mais aussi la capacité de voir les défenses iraniennes se dévoiler sur des objectifs qui intéressent Israël. Et maintenant il faut attendre la réplique de l'Iran. Si l'Iran attaquait violemment Israël, à ce moment-là, les États-Unis s'impliqueraient et on serait dans une option d'escalade, dans une confrontation directe.
Dominique Trinquant avec Eric Kioch, avec cette déclaration étonnante de l'agence de presse iranienne Tasnim il y a quelques minutes. Elle affirme qu'il n'y a pas eu d'attaque de l'étranger cette nuit. Le scrutin est ouvert en Inde. 1 milliard d'Indiens appelés aux urnes pour les législatives. Le Premier ministre nationaliste Narendra Modi devrait être reconduit. Il peut se reposer sur une croissance économique insolente de l'Inde, 6,8%. Mais ce chiffre cache des inégalités béantes, nous dit Gilles Vernier. Il est chercheur en sciences politiques à l'université d'Ashoka en Inde.
La croissance indienne n'est pas une croissance qui produit de l'emploi. L'Inde, depuis 2016, détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Le chômage des jeunes est extrêmement élevé et il est même plus élevé parmi les couches des populations qui sont éduquées. Il y a des problèmes structurels liés au modèle économique qui mènent à cette extraordinaire concentration de richesses. Nous avons aujourd'hui en Inde un degré de concentration des richesses qui est supérieur à la Russie. Et donc évidemment, cela crée un effet de contraste important entre des indicateurs macroéconomiques qui semblent indiquer une économie nommée en poupe, mais une réalité économique vécue par les citoyens qui est fondamentalement différente.
Des propos recueillis par Fabien Aubert.
Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Gabriel Attal veut un sursaut d'autorité pour endiguer la violence des jeunes.
Le Premier ministre veut frapper fort sur les parents défaillants, sur les élèves, en les menaçant notamment d'inscrire les violences sur le dossier scolaire. Le président du SNALC, le principal syndicat national des lycées et collèges, Jean-Rémy Girard, craint des effets limités.
On est contre le fait que la discipline rentre dans l'évaluation des savoirs. Sur Parcoursup, ça risque de créer de grosses inégalités d'un établissement à l'autre, où il y en a un où on serait intransigeant et celui d'à côté où on serait peut-être plus souple. Et enfin, sur Parcoursup, généralement, pour savoir si l'élève est perturbateur, il suffit de lire les bulletins, c'est actuellement marqué dessus. Ça nous donne plus l'impression d'être quelque chose pour faire peur, faire que les élèves n'aient pas envie d'avoir la mention et donc se comportent mieux. On n'est que moyennement convaincu de l'effet sur les élèves réellement très perturbateurs.
Jean-Rémy Girard répondait à Charles Ducrot. À Grande-Synthe, 2 adolescents sont toujours en garde à vue après le meurtre d'un jeune homme et un autre est recherché. Un salaire décent, ça n'est pas le SMIC, c'est un salaire qui doit permettre de subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes. Et Michelin veut payer décemment ses salariés. Ce concept de salaire décent, des associations et des économistes y travaillent depuis longtemps. Et le concept pourrait être généralisé, Zoé Pallier.
Pouvoir se nourrir, se loger, mais aussi s'accorder quelques loisirs et épargner un peu, voilà ce que permet un salaire décent. Anne-Marie de Pascual, déléguée nationale d'ATD Carmonde.
C'est pouvoir avoir accès à la santé dans de bonnes conditions, pouvoir se payer des choses, un cinéma, une sortie, et pas que des activités gratuites. On peut saluer la démarche de Michelin, mais on peut que souhaiter que ça soit accessible à l'ensemble des salariés dans toutes les entreprises, y compris les toutes petites.
Car ce sont évidemment les grands groupes qui peuvent accorder ce type d'avantage à leurs salariés. Henri Sterdignac est économiste à l'OFCE.
Au début du siècle dernier, les entreprises logeaient leurs salariés. Elles distribuaient des allocations familiales dépendant du nombre d'enfants.
Mais pour cet économiste, cela ne doit pas remplacer le système de protection sociale qui, lui, s'applique à tous.
Michelin, c'est un précurseur des progrès que doit faire la protection sociale en France. La 4e semaine de congés payés, ça a été obtenu à Renault. Et ensuite, ça a été généralisé à l'échelle de la France.
Un effet boule de neige possible aussi hors des frontières. Les ONG espèrent que d'autres firmes multinationales suivront l'exemple de Michelin et amélioreront les conditions de vie de leurs employés en Chine ou au Brésil.
Le président du groupe Michelin, Florent Ménégo, sera votre invité dans quelques minutes, David, sur Radio Classique.
Je confirme.
Et puis je sais que vous attendiez ce jour avec impatience, le matin, où enfin vous alliez pouvoir écouter ça. Voilà, David, en pleine réflexion sur...
Je reconnais le rossignol américain.
Voilà, extrait du nouvel album de Taylor Swift qui sort aujourd'hui. Alors, au-delà de la critique musicale possible, intéressons-nous à l'économie Taylor Swift. Certains médias américains disent qu'elle dope le PIB des États-Unis. Mais en fait, il n'en est rien, nous dit Sylvain Bersinger du cabinet Aster.
Effectivement, les fans peuvent dépenser beaucoup d'argent pour assister au concert, pour réserver une chambre d'hôtel, pour se déplacer. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils ne rognent pas sur d'autres dépenses ? Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont un pouvoir d'achat supplémentaire. Ça veut dire qu'ils font le choix de dépenser pour aller voir Taylor Swift plutôt que pour faire autre chose. Donc oui, les gens qui sont très fans de Taylor Swift peuvent décider de piocher un peu dans leur épargne. Mais il y a forcément un effet d'éviction. Et donc, l'impact risque d'être très faible. Et quelques milliards d'euros sur l'économie américaine, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc en fait, ça ne change absolument pas les grandeurs macroéconomiques ou les trajectoire de croissance.
Bon, en gros, ça s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Taylor, si j'ai bien compris.
C'est plus convenable que l'inverse, en fait. Hein ? Vous pouvez écouter Taylor Swift ou préférer Radio Classique. L'audience de votre radio chérie a progressé en un an de 11%. La matinale de 6h à 9h, elle compte 13% d'auditeurs en plus, parmi eux de nombreux décideurs et décideuses, et 40% d'auditeurs de 25-49 ans en plus. On est ravis de tous les accueillir. Et les autres, évidemment, vous pouvez rester. Surtout rester. Après les informations de Virginie Fulpin, à qui je souhaite un excellent week-end, l'éditorial d'Arthur Berda et l'invité exceptionnel de 8h15, c'est le président de Michelin. On vous en parlait hier dans la revue de presse d'Hervé Gattegno. Eh bien, on avait lancé comme ça l'idée d'inviter le président de Michelin. Et il est là ce matin pour parler aux auditeurs de Radio Classique du fameux salaire des